vous suit.
Voici les titres du journal.
Le conseil communal de Jonny s'est réuni hier. Si plusieurs points étaient à l'ordre du jour, une question a beaucoup sollicité l'attention des conseillers de la municipalité. Nous en parlerons avec la syndic Nicole Pointet qui sera en direct avec nous. Trois projets en lien avec la durabilité ont été retenus lors d'un concours mis sur pied par la municipalité montreusienne. Ils devront voir le jour dans le courant de l'année. Et puis les écrans s'invitent partout, y compris dans les conflits familiaux. Demain soir, à Vevey, parents et jeunes échangeront sur le sujet lors d'une soirée inédite imaginée par les ados eux-mêmes.
Pour la météo, une amélioration semble se dessiner cet après-midi. Demain, le temps sera probablement bien ensoleillé. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Et on vous le disait en titre, le conseil communal de Jonny s'est réuni hier soir. Si d'ordinaire tout se passe plutôt calmement dans la petite commune de la Riviera, un dossier soulève de nombreuses questions au sein du législatif jonnissois. Le projet d'un nouveau complexe scolaire, on en parle avec la syndic Nicole Pointet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Nicole Pointet, la création de ce nouveau complexe scolaire suscite des interrogations et surtout des oppositions au sein de la commune. Mais finalement, on va faire un petit rappel. On parle de quoi concrètement?
On parle du fait que notre commune, ça on le sait sur la Riviera, elle s'est beaucoup développée ces dernières années. On a passé assez rapidement de 1500 à 1900 habitants. Et puis évidemment, ça entraîne un besoin d'adaptation au niveau des infrastructures. Et puis, en ce qui concerne les locaux scolaires et puis l'accueil parascolaire et aussi des places de crèche, on a clairement un besoin. On doit répondre aux attentes de nos familles et on se doit de présenter un projet dans ce sens-là.
Et puis, ce projet justement, c'est ça qui suscite des oppositions. Il y en a eu 6 qui ont été déposées.
Oui, effectivement. Alors, il faut juste préciser que les oppositions ne concernent pas le projet lui-même, mais un aspect particulier, à savoir que, bien sûr, quand on fait une construction comme ça, qui en plus chez nous va impliquer la démolition d'un bâtiment existant, il faut passer par des pavillons provisoires. Et puis, dans le but d'avancer le plus rapidement possible et puis de pouvoir tenir les délais qu'on s'est fixés, on a présenté un préavis au conseil communal pour des modules provisoires. Et c'est à la mise à l'enquête de ces modules provisoires que les oppositions sont arrivées. Alors effectivement, il y en a eu 6, mais certaines ont été groupées, ce qui représente quand même à peu près 220 signatures, je crois.
Ce qui est quand même, beaucoup. Voilà, exactement.
C'est pas négligeable, donc c'est clair. Oui.
Et puis hier, c'est justement un point qui a été abordé lors du conseil. La municipalité ne peut pas vraiment en dire plus, et pour une raison bien particulière.
Non, mais bien sûr, des oppositions à une mise à l'enquête, il y a une procédure qui est définie, qui est en cours, et on l'a bien précisé au Conseil, on l'a informé sur ces oppositions-là, mais on ne peut pas se prononcer par rapport à ces pavillons scolaires de façon plus détaillée maintenant. Par contre, on a pas mal discuté avec le Conseil communal sur le projet global. Il y a une interpellation qui a été déposée par un conseiller qui évidemment, la pierre d'achoppement dans tout ça, c'est la volonté ou le projet qui implique la démolition d'un bâtiment existant. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre collège 1984 que les enseignants apprécient et qui fait partie du centre du village. Alors c'est clair, c'est un projet qui est ambitieux, mais finalement, avec la place qu'on a à disposition, avec tous les besoins locaux qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi besoin de construire une salle de rythmique. On n'a pas beaucoup d'espace, la commune de Jonny, c'est pas tout plat. On a une cour d'école magnifique avec des espaces verts qu'on souhaite aussi préserver. Donc, il y a besoin de réfléchir vraiment à l'aménagement de la place à disposition. Et c'est finalement ce projet avec un nouveau bâtiment qui implique la démolition de l'autre qui est le plus efficace et qui est le meilleur projet possible. Et puis, cette interpellation qui a été déposée, elle questionne des aspects financiers. C'est clair qu'on peut toujours imaginer que préserver un bâtiment coûte moins cher que de le démolir et reconstruire. Mais finalement, ce bâtiment, il va falloir l'assainir de façon globale, non seulement au point de vue énergétique, donc il y a aussi des coûts qui y seront liés. Et puis, ces assainissements, c'est des travaux qui ne sont pas légers forcément. Donc, de toute façon, on aura besoin de pavillons provisoires.
Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que les oppositions vont être traitées. Et puis ensuite...
Oui. Alors ensuite, écoute, on verra si elles vont être levées. Ce qui se passe maintenant, c'est que la municipalité continue à travailler sur le projet lui-même. On est à bout de touchant, on travaille avec les architectes. Et puis, je l'ai dit hier au conseil, on pourra tout prochainement présenter le projet finalisé à la population, au conseil communal. Et le conseil communal devra se prononcer sur le crédit de construction au plus tard cet automne.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Nicole Pointet. On le rappelle, vous êtes la syndic de Jonny. Et puis, on vous souhaite une belle journée.
Merci pour l'invitation. Bonne journée aussi.
Trois projets faisant la part belle à la durabilité verront le jour en cours d'année à Montreux.
Ces derniers ont été sélectionnés par l'Office de la durabilité à l'issue d'un concours lancé par la municipalité en novembre dernier. Le premier projet retenu, intitulé « Écoute voir l'eau » est porté par la société d'architecture coopérative LABAC. Il propose une expérience immersive autour de l'eau. Le second projet sélectionné prévoit la création de panneaux ludiques et éducatifs installés au bord du lac, une démarche de l'association Le Chemin des Galets. Et le dernier lauréat, Jardin en bac, porté par Prosenectute, a pour objectif d'installer plusieurs bac à plantes afin de créer un espace jardin pour les locataires d'un immeuble. Un projet qui met en avant d'autres aspects de la durabilité. Sébastien Delahaye, délégué à la durabilité à Montreux.
La durabilité, c'est les trois sphères, hein, l'économique, le social et l'environnement. Avec les potagers, on est dans les trois. On crée du lien social en le faisant ensemble. On touche à l'économique puisque ce qu'on produit, on n'a pas besoin à l'acheter. Et puis, produire des herbes aromatiques, des légumes sans pesticides, ça fait du bien à l'environnement. Donc, on est vraiment pile dans les objectifs de la stratégie de durabilité.
C'est la première année que Montreux lance cette idée de concours. Quatre projets ont été soumis. La population a réservé un bon accueil à cette initiative qui sera possiblement reconduite. La durabilité passe par les citoyens pour Sébastien Delahaye.
Ce qui sous-tend aussi la stratégie de durabilité, c'est, et la plupart des actions, c'est que la population s'implique dans sa mise en œuvre. Et cet appel à projet, modestement, c'est un moyen de plus d'impliquer la population dans cette mise en œuvre de cette stratégie de durabilité, parce que sans l'implication de la population, il n'y aura pas de développement durable à long terme.
Notez encore que ces projets seront chacun soutenus à hauteur de 5 000 francs. C'était un sujet de Martine Vuistiner.
Accusés de diviser parents et ados, les écrans seront cette fois un prétexte pour rassembler.
À Vevey, une soirée inédite invite demain soir les familles à croiser leurs regards sur le numérique entre débats, jeux et expériences culinaires issues de TikTok. Intitulé « Rends-moi mon téléphone », cet événement interactif a été imaginé par des jeunes eux-mêmes avec l'aide de Gréa, le groupement roman de... j'ai oublié le nom, de d'études aux addictions, merci, Organicité et Ginkgo. Objectif, déconstruire les idées reçues et favoriser un dialogue bienveillant entre générations. Si l'impact de cette édition reste à découvrir, l'expérience montre déjà les bienfaits de ces rencontres participatives. Les précisions de la directrice d'Organicité, Natacha Ross.
On a déjà un bilan intermédiaire sur ce qui s'est passé jusque-là, puisque c'est vraiment les jeunes qui ont tout créé. Nous, on était ravis, on ne sait jamais combien de jeunes vont s'intéresser. Donc déjà au lancement, en janvier, il y a eu pas mal de monde qui est venu. Là, on a surtout quatre jeunes ultra motivés qui tirent en avant et qui organisent. Donc ils ont déjà appris plein de choses en termes de gestion de projet. Rien que de penser et d'organiser ces événements et ces moments ludiques, et ben, ça les sort des écrans, puisqu'ils discutent, ils organisent, ils font des recettes, etc. On est allé chercher des prix aussi, donc plein de lots à gagner qui devraient amener du monde. Et voilà, on espère que le bouche à oreille, que ce soit des jeunes, des parents, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont se dire « Ah, ça c'est pour moi, j'ai un petit problème aussi sur cette question d'écran ». Donc voilà, on tirera un bilan final après le 28 février, mais le bilan intermédiaire est déjà excellent.
Et en attendant le bilan définitif, les organisateurs vous donnent rendez-vous demain soir à la Villa Métis à Vevey. Entrée libre, buffet offert et surprise au programme. Un sujet proposé par Julie Guay. La Confédération soutient le nouveau terminal de fret ferroviaire à Montet. L'Office fédéral des transports a annoncé ce matin avoir accordé une subvention pouvant couvrir jusqu'à 50% des coûts de la nouvelle installation de transbordement rail-route, soit un montant maximal de 20,5 millions de francs. Fabrice Teta, président du conseil d'administration de Terminal Combiné Montet-SA, se réjouit de ce soutien pour l'industrie locale. Le terminal, qui sera opérationnel en 2027, traitera 45 000 chargements par an. ans et offrira un accès direct à l'A9. Ce projet s'inscrit dans la politique suisse de transfert modal visant à réduire l'impact environnemental du transport routier. Un appel d'offres pour l'exploitation sera lancé en 2025. Le chanoine Roland Jacquenoux demande à nouveau sa réhabilitation au collège de Saint-Maurice pour la rentrée prochaine. Le 18 février dernier, la cour de droit public du tribunal cantonal valaisan a admis son recours contre son licenciement, lequel avait été prononcé quelques semaines après la diffusion d'un reportage médiatique accusant des chanoines de l'abbaye de comportements abusifs, parmi lesquels se trouvait l'enseignant. Les procédures ont permis de démontrer que les accusations portées contre lui par voie de presse étaient infondées. Ça porte le drôle de nom de Romance Scam. C'est l'arnaque aux sentiments sur Internet. Ce matin à Berne, les polices cantonales et l'organisation Prévention Suisse de la Criminalité ont lancé une vaste campagne de prévention contre les arnaques sentimentales sur les réseaux et les plateformes numériques. Avec ce slogan, l'amour, le vrai, ne coûte rien. Chaque année, 700 plaintes sont déposées en Suisse par des personnes grugées qui se sont fait séduire sur la toile et ont ensuite versé de l'argent. Et ce n'est certainement que la pointe de l'iceberg. Alors, la romance scam, comment ça fonctionne? L'adjudant Pascal Fontaine de la police cantonale vaudoise.
On a des escrocs qui construisent des faux profils ou usurpent des identités de personnes célèbres et postent ça sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, à la pêche aux victimes. Certaines victimes entrent en contact avec ces escrocs. Ces escrocs arrivent à développer une relation et à engager une histoire d'amour, une histoire romantique. La personne lésée est vraiment sous l'emprise. Cet escroc, il va commencer à lui faire des demandes d'argent. Il n'y a pas de profil type. On a 3/4 des victimes, c'est des femmes. L'âge, c'est entre 45 et plus de 65 ans. Peut-être un point commun qu'on pourrait rencontrer chez ces victimes, c'est de la solitude.
Les auteurs des arnaques aux sentiments sur Internet sont identifiés. Ce sont ou des jeunes d'Afrique de l'Ouest comme les brouteurs de Côte d'Ivoire ou des mafieux d'Asie du Sud-Est. L'Institut de lutte contre la criminalité économique de la Haute École Arc à Neuchâtel est allé à leur rencontre pour comprendre le phénomène. Il est très difficile de les poursuivre. La seule parade, dit le doyen de l'Institut Olivier Baudet-Labrec, c'est la prévention.
La prévention, c'est clairement un axe sur lequel on travaille, on doit continuer de travailler. La prévention auprès des victimes, mais aussi auprès de l'entourage des potentielles victimes, à savoir que lorsqu'on a quelqu'un dans notre entourage qui commence à développer des symptômes d'une arnaque au sentiment, eh ben, ça peut être bien pour l'entourage de prendre la situation en charge, d'aller parler avec la victime, de dire faire attention, essayer de démonter un peu le cas pour démontrer que c'est bel et bien une arnaque. Le message de prévention ne doit pas être « faites attention au grand amour sur Internet », non, mais je pense qu'il faut faire attention aux demandes d'argent qui suivent un prétendu amour sur Internet.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. Le pape François, hospitalisé pour une double pneumonie, va un peu mieux. Il a bien dormi et se repose, a annoncé ce matin le Vatican dans un bref communiqué. Mardi soir, le bulletin de santé quotidien du pontife de 88 ans, soigné à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février, avait fait état d'une nouvelle légère amélioration, précisant toutefois que son pronostic reste réservé. Et puis on va terminer ce journal avec du hippisme. La finale de la Coupe du Monde à Bâle qui du 2 au 6 avril se déroulera sans Steve Gerda. Le médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris a été opéré d'une hernie discale. Le Jurassien a annoncé la nouvelle hier dans un communiqué publié sur Instagram. Malgré ses problèmes de santé et les douleurs, il avait déjà été opéré du ménisque avant Noël. Steve Gerda avait réussi à se qualifier à la dernière minute pour la finale de la Coupe du Monde lors de l'épreuve de Göteborg le week-end dernier. Mais il est désormais impensable de le voir sauter à Bâle début avril.
L'actu en continu, radiochablais.ca.